On partageait hier le résultat de recherche des trois dernières années sur les sites de Kroger 2 et Kroger 3 à Brompton. Donc, des terrains qui appartiennent à la Kroger, mais il y a eu des recherches archéologiques au cours des trois dernières années. On en parle ce matin avec l'archéologue Éric Grayon. Bonjour.
Allô, Steve.
Je sais que ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. On devait être content de dévoiler finalement le résultat de ces efforts-là. Et on a qualifié les découvertes d'exception pour le grand public. Qu'y avait-il d'exceptionnel là-dedans?
Ben, ce qu'il y avait d'exceptionnel, c'est que c'est un site qui est d'abord très ancien. En fait, des objets sur place ont été laissés par les premiers groupes humains qui ont exploité, si on veut, de façon coutumière, le bassin de la rivière Saint-François, c'est-à-dire ses ressources. Comparativement à d'autres sites de cette période, qui sont d'ailleurs très peu nombreux, il y en a quelques-uns en Nouvelle-Angleterre, on a quelques traces diffuses au Québec, un peu plus en Gaspésie. Mais c'est un groupe, c'est une période qui est très mal connue, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sites, et souvent les sites sont très pauvres. Et ce qu'il y a de particulier à Brompton, c'est que d'abord, c'est pas très grand, mais il y a une très forte densité artefactuelle, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté sur place, ils ont fait des activités, ils ont taillé la pierre. Et d'ailleurs, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs variétés de pierres, autant des pierres locales. Donc, déjà, comme ils ont utilisé certains matériaux locaux, on voit qu'ils connaissaient quand même la région ici. Puis également, ils ont utilisé des pierres, dont une pierre qu'on appelle la rhyolite Kineo, qui vient du lac, secteur du lac Moosehead dans le Maine.
Donc, il y avait de l'échange, là. On voit qu'il y avait de l'échange.
Oui, puis même à ce moment-là, c'était des grands voyageurs, là. C'était des nomades, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le territoire et on suppose même que c'est pas impossible même qu'ils se soient déplacés jusqu'au lac Moosehead et on a également des matériaux du lac Champlain à l'opposé vers l'ouest. Donc, c'est très intéressant pour les connaissances. Donc, possibilité de réseau d'échange, mais également des grands déplacements et le lien vraiment avec la Nouvelle-Angleterre. Les matériaux qu'on retrouve sont plus en lien avec la Nouvelle-Angleterre et non avec la Gaspésie.
Donc, est-ce que c'est un nouveau groupe? Est-ce que ça remet un peu en question certaines théories de déplacement des premiers peuplements?
Sans remettre en question les théories des déplacements, c'est que il se posait plusieurs questions. C'est une deuxième vague de peuplement, si on veut, qui arrive de l'Ouest. La première, sont arrivées il y a environ 12 000 ans. C'est M. Claude Chapdelaine, d'ailleurs, qui collabore avec nous, qui a fouillé le site Clichrancourt dans le secteur du lac Mégantic. Donc, on en a parlé là, au début des années 2000. Mm-hmm. C'est un site qui date de 12 000 ans. C'est le seul au Québec connu à ce jour. Et c'était possiblement des petites incursions. Ils étaient du côté probablement de Nouvelle-Angleterre. Ils ont fait des petites incursions vers le nord ici, mais c'est les seuls indices qu'on a. Nous, c'est une deuxième vague qui arrive de l'ouest également, et eux, ils vont commencer vraiment à s'installer dans le nord-ouest. Et éventuellement, ils vont se rendre en Gaspésie. Les sites gaspésiens ou du Bas-Saint-Laurent sont possiblement plus récents parce que du côté américain, il y a un site qui a été daté entre 10 000 et 10 800 ans. Qui représente en fait notre fossile, notre principal témoin qui nous permet de connaître l'identité de ces gens. C'est des pointes qu'on appelle planos là, de type Saint-Anne-Varney, donc dans notre jargon. Mais c'est vraiment typique, c'est une mode qu'il y a eu à cette période-là.
OK, donc est-ce qu'on a retrouvé des pointes, donc des armes, on a retrouvé des fossiles aussi, je pense, animaux?
Pour les animaux, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle des os blanchis, donc des os qui ont été calcinés. En fait, c'est des restes de repas. On a des spécialistes de projet qui est très intéressant avec la participation de Claude Chapdelaine de l'Université de Montréal, c'est que lui, il est en contact avec plein d'autres spécialistes qui vont être capables, entre autres, d'identifier les restants, les d'os, parce que c'est tout petit, et on a été capable de retracer, si on veut, ce que mangeaient, ce qu'exploitaient ces gens-là. Donc, on a identifié principalement du castor, mais il y a également de la marmotte.
Ça mangeait de la marmotte.
Oui, du moins, ils l'ont chassé, ils l'ont possiblement mangé. Cervidés, quelques cervidés, mais ça, c'est plus difficile à identifier là, quel type de cervidés. Mais ce qui est vraiment particulier, il y a également des vertèbres de poissons. Et pour un site aussi ancien, au Québec et même maritime, les États au nord de la Nouvelle-Angleterre, c'est la première fois qu'on en identifie sur un site aussi ancien. Donc, c'est les premiers vestiges qui témoignent que ces gens-là, ils pêchaient déjà à cette époque-là, il y a environ 10 000 ans. On s'en doutait, mais ce qu'ils utilisent, les objets utilisés pour pêcher, souvent sont faits en os. ou en bois et ça ne se préserve pas, mm-hmm. du moins dans nos conditions ici.
Et là, ça a été plus clair.
Eh bien. Oui.
Alors, il y a des premières. Tout ça va être gardé au Musée de la nature et des sciences. Est-ce que les gens vont pouvoir regarder ces artefacts-là à un moment donné?
Ben, disons, on avait une première phase qui était d'une entente triennale avec la ville de Sherbrooke. Une première phase 2015 à 2017 qui était pour justement la fouille du site. Nous sommes retournés cet été quand même parce qu'on est dans une deuxième entente triennale qui va jusqu'en 2020 et ça prévoit justement la mise en valeur de certains de ces vestiges-là ici au musée. Mais c'est une montagne de données à traiter. Là. Mm-hmm. Le rapport qu'on a présenté hier, c'était les résultats de 2017, mais on a encore 2018. Ce qu'on a fait cet été, on vient mm-hmm. juste de terminer. Également, il y a un tout petit site, le site Kruger 3, qui est très près, qui nous a révélé de belles surprises cet été. Fait qu'il y a encore beaucoup à faire.
OK. Vous allez bien occupé.
On est en train de construire.
Vous allez être bien occupé. Est-ce que vous allez participer aussi aux fouilles qui vont avoir lieu dans Grande Fourche?
Non. Ça, je crois que c'est la firme Ethnoscope qui vont participer. Mm-hmm. Il va y avoir un gros volet historique. Puis moi, vraiment, ma spécialité, c'est au niveau préhistorique. Mais il y a un très bon potentiel également ici au confluent des rivières Magog et Saint-François.
Malgré le fait qu'elles ont été un petit peu perturbées, je pense quand même.
Au niveau préhistorique, ça risque d'être le problème. C'est de savoir si ce qu'il y a sous, par exemple, le stationnement de la grenouillère, est-ce qu'on a construit directement sur le sol en place ou on a excavé avant. Donc, plein d'inconnus, mais potentiellement, c'est certain que c'est un secteur également extraordinaire.
Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin.
Oui. Juste peut-être pour terminer, oui? Dire que M. Chapdelaine va être à Brompton à la Maison des arts et de la culture le 18 octobre prochain à 19h. C'est une conférence qu'il va faire gratuitement. C'est le comité du patrimoine de Bromptonville qui organise l'événement.
Ben, très belle précision. Merci beaucoup, M. Grayon.
Ben, merci bien.
18 octobre prochain, 19h. Ben oui, si vous aimez l'archéologie ou vous intéressez à ce qui s'est passé dans le coin, ben pourquoi pas aller écouter ça, aller jeter un petit coup d'œil là-bas.